le magazine des Nations Unies.
Bonjour, agréable condition d'écoute des programmes de Radio Okapi qui vous propose le magazine des Nations Unies. Les titres. L'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP Bounia, vient de bénéficier de deux nouveaux bâtiments ultramodernes. La remise symbolique a eu lieu jeudi dernier à Kinshasa. Il s'agit des ouvrages financés par le gouvernement japonais avec l'appui technique du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Développer les programmes de réparation alignés sur les normes et standards internationaux en matière de droits de l'homme, c'est le thème d'un atelier de trois jours clôturé jeudi au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Damien Mama, représentant résident du PNUD, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Développer les programmes de réparation alignés sur les normes et standards internationaux en matière de droits de l'homme. Ce thème était au centre d'un atelier de trois jours du mardi 21 au jeudi 23 mai dernier au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Ces assises ont réuni des experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ceux du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, ainsi que ceux du Fonds des victimes de la Cour pénale internationale. Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, souligne l'importance de cet atelier. Il est au micro de Jeff Opela.
Oui, c'est une réunion hybride où nous allons faire des échanges d'expériences des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont déjà connu l'application de la justice transitionnelle dans leur pays et particulièrement dans le volet réparation. Et ces expériences vont nous permettre, nous en tant que FONAREV, que nous puissions profiter de leurs erreurs et de leurs expériences positives pour que nous puissions l'adopter et l'appliquer chez nous. Donc c'est un exercice qui est vraiment utile parce que ça nous permet de mieux orienter notre propre action en faveur des victimes.
À Kinshasa, il y a eu remise symbolique jeudi de deux nouveaux bâtiments ultramodernes de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP Bounia. Ils ont été financés par le gouvernement du Japon avec l'appui technique du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. La cérémonie de remise a eu lieu à la direction provinciale de l'INPP Kinshasa sur la 11e rue Limétée. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP. La clé symbolique a été remise aux bénéficiaires par Mme Ndoussine Tembe, ministre du Travail. Godefroy Stanislas Chimanga Mutwabu, administrateur directeur général de l'INPP, souligne l'importance de ce geste au micro de Jeff Opela.
Le Japon apparaît sous nos yeux comme un partenaire privilégié dans le rayonnement de notre institution. À travers cette acquisition, l'INPP s'imposera davantage en répondant favorablement aux besoins réels des entreprises afin d'accroître leur compétitivité et leur productivité, ce qui facilitera l'émergence de la classe moyenne, l'esprit d'entrepreneuriat dont notre économie a fortement besoin pour mettre fin au déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché national.
La province de l'Ituri compte plus de 7000 femmes et jeunes filles souffrant des fistules vésico-vaginales qui nécessitent une intervention chirurgicale. C'est ce qu'a déclaré le médecin responsable de l'hôpital général de référence de Bounia. Il a dit à l'occasion de la célébration jeudi de la journée internationale de l'élimination des fistules obstétricales. Toujours selon lui, depuis 2018, plus de 800 femmes ont été opérées et réinsérées dans leur famille. Le dit au micro de Jean-Claude Lokidile.
Selon la plupart des témoignages de mes malades que j'ai à opérer, il faut souligner aussi qu'il y a des témoignages selon lesquels ces femmes m'ont dit que les hommes en armes pouvaient venir contraindre leurs enfants à le rendre à sec. Vous voyez, ils viennent dans une maison, ils récupèrent des enfants de 12 à 13 ans, 14 à 16 ans, et puis partent avec, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, et reviennent à sec. Et dès qu'elles sont grosses, elles atteignent le terme, mais vous voyez, ce sont des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, leur bassin n'est pas préparé pour recevoir le bébé. Je parle en termes faciles, hein, et par voie de conséquence, pendant l'accouchement, généralement, et surtout que ce soit des enfants pour qui devaient bénéficier soit d'un accouchement par césarienne, assistance médicale. Il n'y a qu'une personne, la femme se trouve bloquée dans la filière génitale. Et dès que la femme se trouve bloquée dans la filière génitale, soit ça peut entraîner des hémorragies, elle peut se déchirer. Je vous dis, sur 10, 9 meurent. Alors, les porteuses de cette infirmité gynécologique, après ces dégâts qui s'est déjà créé dans leur filière génitale, sont les seules survivantes.
Ces interventions chirurgicales ont été réalisées avec l'appui de différents partenaires, dont l'ONG catholique Caritas Développement, Médecins sans frontières et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Jean Bosco Bahala, coordonnateur du PDDRCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il nous parle d'un atelier qui a réuni une dizaine d'experts du gouvernement et des partenaires la semaine dernière en Ituri sur initiative de la MONUSCO. L'objectif était d'élaborer un plan conjoint afin d'accélérer ce processus dans cette province. Jean Bosco Bahala, son entretien avec Jean-Claude Lokidile.
Abbé Jean Bosco Bahala, bonjour.
Bonjour.
Un atelier sur la planification conjointe des opérations PDDCS en Ituri. Pourquoi encore un atelier aujourd'hui en 2024? N'est-ce pas un retour à la case du départ après 2 ans de léthargie?
Non, je dois avouer que en matière de transformation des conflits, en matière de dialogue social, en matière de réconciliation communautaire, en matière de désarmement et de mobilisation dans un processus de paix, on ne compte pas le nombre d'initiatives qui sont prises pour que les choses puissent marcher. Vous savez que depuis la mise en place de la nouvelle équipe, c'est la première fois que je viens à Ituri. Nous sommes venus dans un cadre bien précis. D'abord, nous voulions prendre contact avec les autorités de la province de l'Ituri. Nous voulions prendre contact avec certaines instances qui sont engagées justement dans le processus. C'est pour ça que vous nous voyez ici devant celui qui gère le bureau de la MONUSCO à Ituri. Si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour qu'on fasse un atelier, parce que cet atelier est une question technique. Lorsque vous planifiez quelque chose, il faut d'abord que les techniciens puissent faire les termes de référence, puissent se rencontrer avec les autres. C'est pour ça qu'on a reçu un appui de l'unité d'appui à la stabilisation et ensemble avec d'autres instances qui sont engagées dans le processus de paix, notamment par exemple le processus de Nairobi et de Luanda.
Sinon, à quoi va servir ce plan conjoint? La question qu'on se pose, à quand, proprement dit, le démarrage effectif de ce programme de PDDCS qui a entraîné?
Mais non, le processus qui a été lancé et a déjà porté beaucoup de fruits. J'ai eu 2 séances de travail avec monsieur le gouverneur de province, le général Louboya, qui m'a expliqué le magnifique travail qui a été fait en collaboration avec la MONUSCO. Maintenant, c'est vrai, ce travail doit être fait en profondeur. Il faut aller vers les communautés, il faut aller vers les causes de la belligérance. Il ne suffit pas que des gens viennent signer des engagements de paix et que des massacres et des tueries continuent dans les villages. C'est ça que, si le président de la République, aujourd'hui, veut que l'Ituri puisse être vraiment, qu'on puisse focaliser des efforts sur l'Ituri, c'est parce que justement, on a déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, on a déjà fait beaucoup d'accords, beaucoup de chemins, etc. Il faut qu'aujourd'hui, maintenant, on se recentre sur l'essentiel. Par exemple, je suis en train d'effectuer une visite à des notables, à des membres des communautés. Ils m'ont envoyé, ils m'ont donné toute une liste de leurs desiderata. Nous les rencontrons pour qu'ils puissent devenir demain, tous ces notables, qu'ils puissent devenir demain les protagonistes. Nous préparons avec Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO et archevêque de Kisangani, avec qui on est en train de préparer une grande conférence. Et nous voulons que demain, si le président de la République vient ici, qu'il puisse voir qu'il y a des résultats sur le terrain, que nous puissions rassembler tout le monde, ceux qui ont accepté le processus de paix, et qu'on voit qu'ils ont rendu les armes, que certains d'entre eux, ces armes, on les présente quand on est en train de les démanteler et que tout le monde prenne maintenant un engagement ferme parce qu'il y a du résultat.
Tout ça, j'imagine, ça demande de moyens. Est-ce que le fonds est disponible pour pouvoir mener à bien tous ces vastes programmes?
Nous venons à peine de commencer notre travail il y a 5 mois dans une période où en réalité il n'y a pas de gouvernement. Vous le savez bien que le processus de mise en place du gouvernement n'est pas encore là. Et si vous parlez du gouvernement, ça signifie que les moyens fonctionnels de l'État, ils doivent venir du gouvernement. Nous n'avons pas baissé les bras, nous ne sommes pas restés inactifs. Le temps que nous attendions, par exemple, ces financements réels pour que nous puissions faire fonctionner tout ce qu'on a mis en route. Mais nous avons fait du travail. Nous avons continué la conscientisation des groupes armés. Nous savons aujourd'hui qui sont prêts à rejoindre le programme et ils sont très nombreux.
Donc je retire côté gouvernement, il n'y a pas encore les fonds. Les fonds n'est pas encore disponibles, on attend.
Je ne dis pas que les fonds ne sont pas encore disponibles, les fonds sont en processus parce que le budget de l'État a déjà été voté et donc tout le monde sait très bien que ça ne fonctionne pas comme automatiquement dans une semaine ou dans trois jours, etc. Mais nous savons que nous connaissons déjà le budget dont nous disposons et donc ce budget sera certainement dans les jours à venir engagé pour que nous puissions faire le travail qu'il faut.
Abbé Jean Bosco Bala, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Il faut que la paix règne en Afrique et ailleurs. Trop d'Africains sont pris dans l'enfer des conflits ou exposés au danger permanent du terrorisme et de l'extrémisme violent au sein de leur communauté. C'est un appel d'Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a cité les pays du Sahel, le bassin du lac Tchad, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Soudan. Il l'a fait lors d'un débat au Conseil de sécurité sur cette question. Il a jugé nécessaire de faire revenir la paix sur le continent. Quid du désengagement de la MONUSCO? C'est autour de ce thème que la section de communication stratégique et de l'information publique de la mission onusienne à Béni a réuni une centaine de jeunes jeudi dernier à travers le Parlement des jeunes de la ville. Au cours des échanges, ils ont également abordé la question liée à la désinformation et ses conséquences dans la région. Les participants disent avoir constaté que souvent, les incompréhensions entre la mission onusienne et la population naissent de la désinformation ainsi que de la manipulation de la jeunesse.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en RDC. Vous le savez sans doute, cette agence onusienne finance les travaux du programme de développement de 145 territoires dans 9 provinces. Le 7 mai dernier, le PNUD a reçu de l'entreprise Safecas 6 ouvrages réalisés dans la province du Maniema sur les 103 attendus sur place. Damien Mama donne ses appréciations dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Mama, bonjour.
Bonjour madame.
Après une année de travaux, Safrica revient de vous remettre quelques ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires. Comment appréciez-vous ces travaux?
Effectivement, ça a pris à peu près une année pour avancer dans les travaux et je suis très heureux de voir que nous avons à peu près 5 infrastructures qui sont déjà prêtes sur les 103 pour la province du Maniema. Et nous avons symboliquement remis l'école primaire Lomamba dans le territoire de Kailo au gouverneur. Et nous allons poursuivre la remise du reste des infrastructures dans cette semaine. Mais en plus des 5 infrastructures, il y a une bonne partie qui a progressé. Vous avez vous-même constaté lorsqu'on s'est arrêté à Kampala, toujours dans le territoire de Kailo. Il y a un hôpital qui est prêt, mais parce que c'est pas encore équipé, on ne remet pas. Et nous avons beaucoup de travaux qui ont avancé dans l'ordre de 90%, 80% par là. Et nous allons continuer à remettre chaque mois, une fois que ces infrastructures sont progressivement prêtes. Les travaux que j'ai vus hier sont de très bonne qualité et ça reflète un peu les normes que nous avons dictées dès le départ. Et les entreprises sont donc appelées à se conformer à ces normes au cahier de charge, de sorte que les infrastructures qui sortent de terre dans le cadre du PDL 145 territoire dans le Maniema puissent respecter les normes qui ont été instituées par le gouvernement, mais qui respectent aussi les standards internationaux.
Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres ouvrages à livrer. Est-ce que c'est encore dans les délais?
Bon, en fait, tout le programme dans son ensemble n'est pas dans les délais. Vous savez, on fixe un délai. Et puis, face aux défis logistiques, climatiques, sécuritaires, un peu partout, on est obligé d'ajuster. Mais quand on regarde le niveau des défis, par rapport au travail qui est maintenant fait, je peux bien sûr nous féliciter d'être dans des délais raisonnables. Pas les délais initiaux, mais des délais raisonnables, parce qu'il faut bien sûr s'assurer que le cahier de charge est respecté. Et vous savez, ici, on est confronté dans le Maniema à une pénurie de matériaux de construction. Ça prend du temps pour être acheminé de localités environnantes comme le Nord Kivu, la Tchopo. Donc, dans ces conditions, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour acheminer du matériel. Et cela joue aussi sur les délais. Mais je peux vous rassurer que une fois qu'on a commencé, on est en train de progresser. Nous faisons la pression sur les entreprises pour accélérer. Et c'est ce que les autorités provinciales nous ont demandé. Et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc, on va accélérer et s'assurer que nous fassions le reste des travaux dans des délais raisonnables.
Sur une centaine d'ouvrages à remettre, seulement 5 ou 6 qu'on vient de vous remettre, vous êtes satisfait de ça?
Mais bien sûr, parce que nous ne remettons pas les infrastructures tant qu'elles ne sont pas totalement finies et équipées. Je vous ai dit, on a une vingtaine qui sont à des niveaux de réalisation qui peut même permettre aux enfants de les occuper. Mais les standards du PNUD sont tels que nous ne pouvons pas remettre une infrastructure qui n'a pas les classes finies, les plafonds terminés, les toilettes finies, les conteneurs d'eau complètement finalisés, les sanitaires posés. Donc on veut s'assurer quand même que tout est là. Et c'est parce que on veut s'assurer que tout est là que nous sommes obligés parfois de retarder un tout petit peu la remise, mais en termes de progression, les travaux progressent.
PNUD, dans le cadre d'exécution de ce projet, vous financez ces travaux dans presque 9 provinces. Quelle est la situation dans les autres provinces?
Bon, le PNUD est concerné par 9 provinces et 54 territoires. Et les travaux avancent globalement bien dans l'ensemble. Sur l'ensemble, on a à peu près une cinquantaine d'infrastructures qu'on remet ce mois et ça va se poursuivre ainsi dans les mois à venir et nous sommes confiants que nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés selon l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement de la RDC.
Monsieur Damien, le prestateur de fois accuse PNUD de n'avoir pas honoré la facture de leurs prestations et ce qui leur pousse parfois d'arrêter les travaux. Est-ce que vous avez pu régler ces problèmes ici?
Bon, vous savez, le PNUD a toujours payer ses prestataires. Et donc, lorsque les entreprises arrivent à 20% et qu'on doit leur payer 40%, on doit vérifier d'abord que ce qui a été réalisé est effectif. Donc, tous ces processus font croire à certains que, bon, il y a des retards dans les paiements.
Monsieur Damien Mama, merci.
Merci, madame.
Nous sommes au Nord Kivu avec cet atelier organisé par la section DDR de la MONUSCO qui se tient actuellement à Goma. C'est pour renforcer les capacités des cadres et agents des coordinations nationales, provinciales et territoriales du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS au Sud Kivu dans divers domaines techniques dont l'analyse des conflits. Ces travaux de 7 jours sont une occasion devant permettre à ces acteurs de développer des stratégies d'engagement ciblant les groupes armés. Cela afin d'accélérer la mise en œuvre du plan opérationnel provincial du Sud Kivu, province pilote du retrait progressif de la MONUSCO. C'est dans le cadre du transfert des compétences aux autorités nationales. Denise Lukeso nous en parle.
Au moment où la MONUSCO se retire progressivement du Sud Kivu, les acteurs locaux doivent être capables de prendre la relève afin de pouvoir assurer de nouveau la protection des civils, dit la Bebala, coordonnateur national du PDDRCS.
Que nous ayons les capacités de pouvoir assurer justement la continuité, mais il est temps que nous puissions aussi, au niveau de notre gouvernement, commencer à prendre nos responsabilités et pouvoir assurer nous-mêmes la sécurité et la paix dans notre pays, avec l'aide de nos partenaires, mais d'abord avec nos capacités qui seront aujourd'hui renforcées.
De son côté, la MONUSCO dit attendre du professionnalisme de la part des acteurs nationaux pour sécuriser les civils. Le général Beret Modi, chef de la composante police de la MONUSCO.
Nous espérons, c'est réellement notre conviction, que les acteurs nationaux qui sont censés être les premiers pilotes de ces activités-là, quand ils auront les capacités techniques de conduire, les populations congolaises bénéficieront de beaucoup plus de sécurité parce qu'ils auront des acteurs qui sont professionnels et qui seront aussi ouverts à l'ensemble du contexte dans lequel ils sont en train d'évoluer.
Après le Sud Kivu, cette série d'ateliers va se poursuivre au Nord Kivu et à Ituri. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 29 mai, c'est la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Et le 31 mai, la journée mondiale sans tabac. C'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Pierre Diassinois qui a assuré la coordination technique. Au micro, Babel Pongo Massimango. Jeff Opel a été lui à la coordination, la production et la réalisation. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. L'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.